secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Chantal Nouvelot. Nous sommes aujourd'hui encore, comme la semaine dernière, à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, dans le département du Doubs, en compagnie cette fois de Jordi Saval. Bonjour à vous. Nous sommes là pour un nouveau volet, en fait, de notre série Grand Témoin, qui sera aussi d'ailleurs la dernière émission de cette saison. Je suis vraiment très touchée, Jordi Saval, et très émue que vous ayez accepté cet entretien, malgré votre emploi du temps que je sais très chargé. On me dit en effet que vous donnez quelques 150 concerts par an, ce qui, ajouté à vos activités de transmission et d'engagement humanitaire, représente un travail colossal. Et malgré cela, vous voilà disponible, calme, tranquille, pour une heure afin d'évoquer votre parcours à la fois musical et spirituel, tant il me semble que chez vous, les deux sont tout à fait indissociables. Jordi Saval, vous êtes musicien dans tous les sens du terme, à la fois instrumentiste, avec plusieurs cordes à votre arc, chef d'orchestre, compositeur, créateur de projets et de maisons de disques, explorateur des musiques d'ici et d'ailleurs, des chants connus ou oubliés. Je ne vais pas me lancer dans l'exercice périlleux et fastidieux qui consisterait à faire une liste de tous vos disques, plus de 200 titres parus, ou des innombrables distinctions que vous avez reçues. Non, je crois que nos auditeurs connaissent assez bien votre travail, ou du moins quelques pans de vos multiples talents. Vous êtes en effet un artiste singulier et que je qualifierais presque de boulimique, que l'on peut caractériser par les mots de polyvalent et inspiré. Depuis plus de 50 ans, vous avez exploré et fait découvrir à votre public des merveilles musicales oubliées ou négligées. Vous avez rapproché des traditions éloignées. Vous avez donné à entendre à nos oreilles éblouies la musique de l'âme dans toutes ses couleurs et dans ses variations infinies. Vous avez fondé avec Montserrat Figueras, votre épouse, les ensembles Hisperion 21, la Capella Reina de Catalunya et le Concert des Nations, qui se trouve cette année en résidence à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, où nous sommes. Ces formations, ainsi que la maison de disques que vous avez créée, ont été et sont le support pour la diffusion d'une certaine idée, peut-être même d'un idéal de la musique. C'est l'idée que l'émotion créée par la musique permet de tisser des liens entre les humains et de nous hisser par-delà nos différences à une communion des cœurs. Alors Jordi Saval, d'où vous vient cette vocation? Quand a commencé cette histoire d'amour avec la musique?
Ça remonte à beaucoup d'années, l'histoire de la relation à la musique. Mais je pense que ça a commencé probablement parce que ma mère était chanteuse, amateur, mais elle adorait chanter. Et je pense que mes premières années de mon enfance étaient pleines de musique. Je sais qu'elle chantait beaucoup. Après, avec 6 ans, j'ai vais à l'école, dans une école religieuse. Et la première chose qu'on faisait à 9h du matin, c'est la messe. Et là, j'écoutais les petits chœurs d'enfants et j'étais ébloui d'entendre la beauté de ces musiques. Et 2 jours plus tard, je me suis présenté au chef de chœur et j'ai dit que je voulais chanter. Et là, j'ai eu la chance d'apprendre la musique comme on apprend un langage, à chanter et après à étudier la musique. Donc apprendre la musique en chantant et en imaginant les sons. Et je pense que ça, c'était pour moi peut-être cette dimension de, à la fois... de la beauté du son et en même temps de cette dimension spirituelle de la messe en soi qui m'a accompagné pendant toute mon enfance jusqu'à que j'ai changé la voix. Et c'est ça qui m'a marqué, je pense, le plus. Sentir comment la musique accompagnait tous les moments de l'année, les différentes cérémonies depuis la naissance de Jésus jusqu'à la mort, la musique qui est accompagnée quand quelqu'un est mort, etc. Toutes ces fonctions de la musique, je pense, inconsciemment, m'ont fait sentir quand même quelque chose de très fort. Mais il y a une période, après ça, quand j'ai mis de bois, où je suis en pleine adolescence, et là, J'hésite, je doute. Avec mes amis, on fait toutes sortes de folies. On fonde un ensemble avec lequel je joue la batterie. Après, je me mets à la guitare, mais ça me plaît pas tellement. Après, je prends même l'harmonique. Et j'adorais l'harmonique que j'avais écouté dans les films de l'Ouest. Avec
ces
jolies. Avec ces. Des musiques de Ennio Morricone, des musiques comme ça. Je suis, en ces époques-là, un des premiers fans d'Elvis Presley. Mm-hmm. Mais le jour qu'il se passe quelque chose qui correspond à un moment vraiment essentiel, je pense que c'était un soir où j'étais au conservatoire, je suis allé pour faire des cours d'harmonie et de contrepoint, et par hasard, il y avait une répétition. On répétait le début du Requiem de Mozart. Il y avait un quatuor de cordes et un petit chœur de 24 chanteurs. Je me cache dans un petit coin, et pendant une longue heure, j'écoute ma répétition. J'en sors bouleversé, et j'avais 14 ans, et je me dis, si la musique a ses pouvoirs, j'aimerais être musicien. Sans le dire à personne, quelques mois plus tard, je m'achète un violoncelle à Barcelone, et je commence à étudier le violoncelle. Voilà, ça c'est, je pense, pour moi, ce qui a été déterminant, c'est de sentir que la musique peut faire quelque chose si profond dans nous-mêmes qui peut nous changer, qui peut nous faire vivre et voir les choses d'une autre manière. Et c'est ça que je pense que m'a toujours fasciné, c'est la capacité que la musique a de faire du bien. Parce qu'en fait, maintenant, après toutes ces années, je suis arrivé à la conclusion que toutes les musiques qu'aujourd'hui nous écoutons, des traditions orales de toutes les cultures, sont des musiques qui ont eu pour fonction principale d'aider les gens à survivre.
Oui, alors on va y revenir évidemment, puisque vous avez eu cette grande ouverture. Mais je voudrais approfondir un peu cette question de l'enfance, puisque j'ai lu dans certains entretiens que vous avez donnés que votre père, lui, n'était pas particulièrement catholique, il était même républicain. Vous avez donc grandi, votre enfance était sous...
C'est pas incompatible.
Oui, je vais y revenir. Mais ça veut dire
c'est joli.
Oui, absolument. Mais je veux dire par là qu'il avait une... il vous a mis dans une école religieuse, mais c'était pas par conviction catholique.
Non, au contraire. Mon père était républicain, donc il avait lutté contre les forces de Franco. Il était dégoûté de voir comme l'Église catholique appuyait Franco, comme les curés bénissaient les exécutions des gens innocents. Vous voyez, donc il était catholique, baptisé aussi, mais il était vraiment. Mais malgré ça, quand même, il a fait les choix parce que dans l'école publique, il y avait des gens de la phalange, il y avait des gens qui étaient associés, et dans l'école religieuse, c'était plus neutre dans ce sens. Je pense que son choix, c'était cela. Mais aussi, il faut quand même pas oublier que les pires guerres sont les guerres civiles, et ça crée des blessures et des choses terribles.
Oui, alors c'est pour ça que je voulais que vous parliez de ça, parce qu'après tout, votre enfance, vous nous avez dit, c'est la découverte de la musique, de ses émotions, de ses possibilités, mais c'est aussi un pays plongé dans la guerre civile, c'est aussi le franquisme, c'est aussi tout cela. Est-ce que, pour vous, la musique a été aussi très tôt, et peut-être même pour votre mère qui chantait, un espace de liberté, comme ailleurs, c'est la poésie par exemple, qui est un espace de liberté dans un monde où on se sent quand même profondément opprimé dans son expression, puisque la musique permet de dire des choses sans que ces choses soient signifiantes. Et donc on peut aller à l'émotion sans passer par une signification qui serait éventuellement opprimée par la censure, par exemple. J'en dis ça.
Ben, si vous voulez, moi, dans l'époque où j'avais ma jeunesse, j'étais pas conscient de la censure, des choses comme ça, c'était beaucoup plus tard, mais on était conscient quand même qu'on vivait dans un monde dans lequel il y avait des gens qui étaient pour le régime et les gens qui étaient contre le régime et qui devaient faire attention. Et ça créait donc une situation quotidienne difficile à gérer. Mais à part cela, n'oublions pas que c'est une époque aussi où les différences sociales étaient extrêmes. Et on était prédéterminés dans notre vie. Moi, j'étais un très mauvais étudiant quand j'étais étudiant. Pourquoi ? Parce que je savais qu'on m'avait assigné comme chemin à faire l'école de commerce. Tandis que les enfants des familles riches, ils faisaient l'avocat, ils pouvaient aller à l'université. Et moi, le commerce, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc les seules choses que j'ai étudiées quand j'étais à l'école, qui m'intéressaient, c'était l'histoire et la géographie. Et le reste, ça m'a... Donc, à 14 ans, on m'a mis à travailler, parce que j'étais mauvais étudiant. Donc, pour moi, la découverte de cette force de la musique et l'avoir cherché le violoncelle, c'était ce besoin aussi d'avoir mon espace à moi, de ne pas devoir suivre quelque chose qui n'était pas. Mais le moment que j'ai touché le violoncelle pour la première fois, bon, le premier moment, c'était horrible, le son qui sortit, et j'étais très déçu parce que c'était vraiment pas ce que je m'attendais que de son. Mais peu à peu, j'ai trouvé quand même comment le faire et je me suis senti. Et là, je me suis souvenu de ces paroles de Mark Twain qui disait, il y a deux moments importants dans la vie de l'être humain. Le jour qu'on est et le jour qu'on découvre pourquoi on est né. Je me suis senti comme ça. Je me suis senti, ah, c'est quelque chose que je me sens chez moi. J'ai pu jouer à peine une gamme, hein, mais j'ai senti que mes doigts répondaient à quelque chose de plus profond et que le résultat qui en sortait me donnait un grand bonheur, un grand sentiment d'être retourné à la maison.
On croirait presque à une théorie des vies successives, comme si dans votre vie antérieure, vous aviez été déjà violoncelliste, alors, Jordi Savall.
Violoncelliste, mais je suis convaincu que notre vie... je me souviens un jour, en parlant avec Raymond Panikkar, on lui avait posé la question, quel âge il avait. Et il avait, à cette époque-là, 82 ans. Et il a répondu, je pense que je vais avoir 2500 ans. Parce que ce que nous sommes, c'est certainement le résultat de centaines, de milliers d'évolutions génétiques. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Mais il y a des faits, on se sent chez soi. Et le premier jour que je suis allé avec mon violoncelle acheter des partitions à Barcelone, à Casa Beethoven, j'ai ramené, sans le savoir, des partitions de Mara Marais, les Folies d'Espagne, des partitions que j'ai jouées avec le violoncelle. Et je me suis senti si bien avec cette musique. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et j'étais pendant 9 ans un jeune étudiant en violoncelle appliqué, qui jouait le répertoire, mais qui gardait pour lui ses compositions de Mara Marais, de Bach, de Diego Ortiz, de Simpson, comme une petite jardin secret que je n'osais pas expliquer à mes professeurs parce qu'ils m'auraient dit, mais tu es fou, il faut travailler Beethoven et Brahms et ça, mais ça c'est la musique archaïque, n'est-ce pas? À cette époque-là, qui parlait de Diego Ortiz, c'était comme parler de quelque chose tellement archaïque que ça, et c'est une musique du XVIe siècle.
Oui, c'est vrai aussi que cette musique française aussi du XVIIe siècle que vous avez contribué à faire connaître était à l'époque pas du tout encore... Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup contribué à la rendre connue du grand public, c'est le fameux film d'Alain Corneau, extrait du roman, enfin qui a été fait à partir du très beau roman de... Enfin, roman, je ne sais pas, du très beau livre de Pascal Quignard, « Tous les matins du monde », auquel vous avez participé. Et de cette façon-là aussi, vous avez contribué à faire connaître cette musique. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette musique en particulier, cette musique française du XVIIe, qui a des spécificités, qui est très profonde sur le plan spirituel? Est-ce que c'est ça que vous avez rencontré? Est-ce que c'est une parenté musicale? Qu'est-ce qui vous a amené à aimer cette musique et à vous en faire le découvreur et le défenseur, Jordi Savall?
Je vous expliquerai d'abord comment je suis arrivé à le connaître. Parce que quand j'ai commencé à jouer la viande de gambe, que d'ailleurs, par une série d'hasards, j'avais noté de chercher une viande de gambe, parce qu'une amie qui était clavessiste m'avait dit, Raphaël Pouillan m'avait dit, eh bien, tu joues toutes ces musiques avec violoncelle, peut-être ça sert à rien de jouer une viande de gambe. Et je note ça, je rentre à Barcelone et on me propose de jouer la viande de gambe. Bon, à part ça, j'ai passé quelques années à jouer le violon et le violoncelle, jusqu'à que j'ai passé quelques jours, une semaine à Paris. Et après une semaine, j'avais ma table pleine avec les cinq livres de Mara Marais, les cinq livres de Kerbela, la musique de Couperin, Sainte-Colombe. Et j'ouvrais une page, je disais, mais quelle merveille de musique. Chaque fois que je voyais une nouvelle pièce, c'était des musiques sublimes, des musiques extraordinaires. Je me disais, comment c'est possible que tout cela reste ici, endormi, que personne ne joue ça. Et c'est en ce moment que je me suis décidé à abandonner le violoncelle et me dire, viande de gambe. Mais c'est justement ça.
Juste pour nos auditeurs, techniquement, expliquez-nous la différence entre violoncelle et viol de gambe, à la fois historiquement et techniquement, puis on reviendra à Marie-Marie. Oui.
Donc, surtout, il faut pas dire que le violoncelle, que la viol de gambe, c'est l'ancêtre du violoncelle. C'est pas de tout ça. Mmh. On le dit souvent, mais c'est pas vrai. Donc, au 15e, 16e siècle, il y a deux familles d'instruments archers. Il y a celles qui sont appuyées sous les jambes, et qui sont joués sous les jambes, et qui sont aussi bien le soprano, donc le petit viol, que la basse. Donc, tout ça. Il y a les autres qui sont appuyés sous les bras, qui s'appellent viol de bras, viola de braccio, et qui sont joués sous les bras, et lesquels évoluent plus tard, le plus petit, c'est le violon. Et à ces moments-là aussi, la basse de la viol de bras, c'est un instrument à quatre cordes comme l'alto ou comme le viol de bras, tandis que les familles de viol de gambe, c'est à six cordes normalement, avec des frettes, et qu'on joue l'archet en prenant l'archet la main par-dessus. Et on appuie le crin. Donc c'est tout à fait deux familles différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la viol de gambe, par opposition au violoncelle, l'instrument soliste par excellence, c'est pas le dessus, c'est la basse. Tandis que dans la famille du violon, c'est d'abord le violon, et beaucoup plus tard, c'est le violoncelle aussi qui prend un rôle de soliste. C'est une conception presque humanistique, parce que la viol de gambe basse, on disait à l'époque déjà, elle couvre toutes les tessitures de la voix humaine dans toutes ses étapes de leur vie. Depuis l'homme âgé, dans les cordes graves, le jeune homme dans les cordes milieu, la femme, l'enfant, jusqu'à les cordes aiguës. Donc, un instrument, une viol de gambe basse qui a six cordes, joue dans toutes les tessitures possibles. Et c'est ça qui le rendait l'instrument le plus proche de la voix humaine et le plus humain des instruments à cordes. Fasciné dans la viol de gambe par rapport au violoncelle. Le violoncelle, c'est un instrument merveilleux, c'est un instrument dans lequel on peut chanter, on peut jouer de la manière la plus expressive qu'on peut imaginer. Mais la viol de gambe a une autre qualité. On peut susurrer. Vous savez, imaginez-vous, j'ai dit, toutes les choses essentielles qui se disent entre deux êtres humains dans leur vie se disent doucement. Et ça, c'est la grande qualité de la viol de gambe. Elle peut être extrêmement explosive avec presque un fil de son de rien. Et c'est ça qui explique l'exemple le plus caractéristique, c'est la Passion selon Saint-Jean de Bach, dans laquelle la viol de gambe ne joue qu'un seul air, mais c'est celui de la mort de Jésus. Ça, c'était la spécialité de la viol de gambe. C'est les voix humaines de Marie-Marie, c'est la rêveuse, c'est ces moments, le patinage, c'est des moments où, avec une douceur absolue, on explore les émotions les plus tendres, les plus profondes de l'être humain. Et c'est ça qui était aussi la cause de la disparition de cet instrument. Parce qu'avec l'évolution de l'orchestre plus concertant, de la musique plus virtuose, cet instrument qui était resté individuel, il n'y a eu jamais un ensemble où il y avait 10 viols de gambe qui jouaient la même voix comme dans l'orchestre. Donc la viol de gambe, vers la fin du XVIIIe siècle, a été abandonnée. Parce que c'était plus un instrument adapté à l'évolution du goût musical de l'époque.
Et c'est aussi peut-être pour ça que maintenant ça revient, parce qu'au fond le goût musical a changé, et peut-être qu'on a plus, on préfère quand même, en tout cas on a un goût certain pour des ambiances plus feutrées, plus intimistes. Et c'est vrai que la viole de gamme permet une sorte de musique très de l'intime au fond.
Oui, mais je pense que simplement on a, vous savez, on a cru jusqu'à 1829, on a cru que chaque compositeur composait mieux que ses précédents. Lisez Stendhal. Stendhal, dans les vies de Metastase, de Mozart et Haydn, dit « Ah, finalement, aujourd'hui, on a deux grands compositeurs qui ont fait arriver l'art de la composition au plus haut niveau. » Il dit « C'est bizarre, ces Espagnols qui ont eu ces poètes guerriers comme Cid, qui n'ont aucun compositeur de génie. » La même chose des Anglais et des Russes. Il dit les Flamands qui continuent qui composaient des musiques comme la peinture, beaucoup de détails et rien d'autre. Donc, pour lui, la musique n'existe pas. Tout ce qui s'est fait, il ne connaît même pas Monteverdi, il ne connaît même pas Bach, Handel, rien. Et ça change 1829, quand un jeune compositeur et directeur d'orchestre, Félix Mendelssohn-Bartholdy, dirige à Berlin, pour la première fois, une œuvre ancienne, La Passion selon Saint Matthieu de Bach. À ce moment-là, se produit un grand choc culturel. On prend conscience que dans la musique, il n'y a pas de progrès. Et c'est ça qu'on croyait. Il faut remonter à l'histoire de la Renaissance, à la découverte du monde de la civilisation grecque. Qu'est-ce qu'on découvre dans la civilisation grecque? Qu'il y a des grands architectes, des grands sculpteurs, des grands écrivains, des peintres, mais pas de musique. Donc à la Renaissance, il y a dans la Renaissance, dans l'architecture, dans la littérature, dans la peinture, mais pas dans la musique. Parce qu'on n'a pas écouté une seule mélodie des Grecs. Donc la musique continue à penser que chaque nouvel compositeur est meilleur que l'antérieur. Et on oublie, on fait la musique de son époque, et on oublie celle qui est passée avant. Et ça change en 1829. Mais il faut attendre encore un siècle avant qu'on commence à être conscient qu'il faut aussi jouer les instruments de l'époque.
Oui, c'est ça. Ce que vous êtes dans votre formation, vous faites ça.
Et c'est ça qui change après la Deuxième Guerre mondiale. Il commence à avoir la possibilité d'écouter les musiques de d'autres époques avec les instruments qu'on jouait à l'époque. Et ça, c'est une grande révolution. Aujourd'hui, on peut dire qu'il se produit en ces dernières 50 années une vraie renaissance de la musique. Aujourd'hui, on fait renaître chaque fois qu'on interprète les Vêpres de Monteverdi ou une Passion de Bach, ces musiques renaissent parce qu'ils sont interprétés comme à l'époque, avec leurs instruments, avec leurs sons. Et ça, c'est le grand engouement. C'est l'explication que vous avez dit, hein. Vous avez raison quand vous avez dit qu'aujourd'hui, on a aussi apprécié aussi cette intimité. C'est un peu l'explication qu'il y a eu pour l'engouement des jeunes pour les musiques de tous les matins du monde. J'ai parlé avec quelques jeunes à cet époque-là qui a d'ailleurs c'était tellement fasciné par ça qu'ils ont acheté les disques. Vous savez, 4 ou 5 mois plus tard, dans le top 10, il y avait Michael Jackson, tous les matins du monde et Queen. Et ce qui fascinait ces jeunes, c'était la beauté de la musique, l'expression de cette musique, mais aussi le fait de pouvoir écouter cette musique, pouvoir être avec son copain et parler, ou pouvoir faire les devoirs pendant qu'on écoute la musique sans être agressé par la musique qui écoute normalement, qui est beaucoup plus puissante.
Oui, et puis au-delà, je fais partie des fans qui ont acheté évidemment la musique, la bande-son et ensuite le DVD quand il est sorti. Je crois que j'ai dû le voir 5 ou 6 fois, ce film. Je crois que, personnellement, enfin, ce qui m'a beaucoup touchée, et je voudrais vraiment votre réaction là-dessus, c'est que dans ce film, on a vraiment le sentiment que la viole de gambe est un instrument, vous l'avez dit très bien, c'est-à-dire qui épouse la voix humaine d'une certaine façon, et par conséquent, qui peut nous connecter à l'univers de ceux qui sont partis. C'est-à-dire, finalement, à faire revenir les morts d'une certaine façon, et à les refaire chanter pour nous, chuchoter pour nous dans l'intimité du moment où on joue de la musique. Et je crois que c'est ça qui m'a totalement fascinée. Est-ce que, à l'époque, vous pensiez déjà comme cela, ou est-ce que c'est plus tard, après avoir été vous-même frappé par des deuils qui ont été pour vous très difficiles à vivre, que vous avez perçu la profondeur de cette idée que la musique, ça nous connecte aussi à ceux qui sont partis.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit une spécialité ou une exclusivité de la viande de bande.
Non, bien sûr.
Hein. Je pense que n'importe quel champ spirituel a cette capacité aussi. Mais c'est vrai que la qualité intime de la viande de gambe permet, je dois dire que quand j'ai perdu mon épouse, quelques mois après, quand j'ai prenais la viande de gambe, c'était pour moi un moment de d'apaisement. Parce que le fait de pouvoir jouer, ça me rendait de nouveau à... Mais je pense que c'est une qualité de toute musique spirituelle qui peut, et belle, qui peut nous apporter cette paix intérieure. Je crois que la chose qu'il faut peut-être insister, c'est que la qualité de l'interprétation joue un rôle beaucoup plus important de ce qu'on imagine normalement. Je vous raconterai une petite anecdote qui vous fera comprendre ça. J'étais en train d'enregistrer un soir La Rêveuse, qui devait être jouée par Maramaré, devant le lit de Madeleine malade. Maramaré l'a quittée. Madeleine pensait en se suicider. Et donc c'était la manière de dire au revoir. Et j'ai commencé à jouer ça, comme aussi bien que je pouvais. Et il y a Alain Conneau qui vient, me dit, Jordi, excuse-moi, mais tu te rends compte, c'est pas un concert, hein? Tu te rends compte de quel contexte tu dois jouer ça? Et alors, j'ai pris conscience que la manière de jouer, ça dépend beaucoup de quel contexte on s'imagine qu'on est. Et en ce moment, j'ai repris complètement mon interprétation, je me suis mis dans la peau de Maramaré. J'essayais de comprendre comment je me sentirais s'il y avait là la personne que j'avais aimée et qui est en train de souffrir à cause de moi. Et j'ai joué ça d'une autre manière complètement. Et ce qui était frappant, c'est que cette pièce-là venait toujours à la fin du film, pendant les crédits. Ça durait 6 minutes 30. Et tous les fois que je suis allé voir le film, tout le monde restait. Les 6 minutes 30 dans la salle à écouter la musique. Et ça, je pense, l'explication, c'est que ce qui donne la force de la musique, c'est pas seulement la beauté de la musique, c'est l'émotion qu'on y met à l'interprète. Et ça, c'est la grande, je pense, qualité de talent de chaque musicien. N'importe quelle musique, la plus belle du monde, s'il serait interprété par imaginez-vous, un computer qui peut imiter exactement les sons des plus belles voix, les sons des plus belles, mais qui interprétait ça? Ça ne nous toucherait pas. Parce que la qualité d'une musique nous touche seulement quand il y a l'âme de l'interprète qui passe de son cœur à votre cœur. Et ça, c'est une chose essentielle qu'on oublie souvent.
Oui, alors justement, vous avez dit, c'est son âme, en fait, que c'est quelque chose qui émane de son âme. Et ça m'amène à vous poser la question du lien qui pour vous existe entre musique et spiritualité, si tant est qu'on puisse dire que ce soit deux choses différentes d'ailleurs, parce que quand je vous écoute parler, je me dis, au fond, toute vraie musique, comme toute vraie poésie, ne peut être que reliée à l'âme et par conséquent avoir un caractère spirituel et être aussi porteuse des expériences spirituelles de celui, en effet, qui s'en fait l'interprète.
Je vous répondrai que la musique est la plus spirituelle de tous les arts, parce que la musique n'existe que le moment qu'on la chante et qu'on la joue. Un instant précis que c'est fini, elle reste seulement dans notre mémoire. Donc c'est une art qui est 100% spirituel. Il est conservé dans notre mémoire s'il nous a touchés. Et donc je pense que spiritualité et musique, c'est presque synonyme. Même une musique de danse peut être spirituelle. Je pense que c'est quelque chose. Mais bon, il y a des musiques aussi qui servent à faire des marches guerrières. Il y a des musiques qui servent à beaucoup d'autres choses. Hein. Mais et la musique ne peut être ni bonne ni mauvaise. Et c'est vrai que quelquefois on se pose la question, comment c'est possible qu'un peuple qui a été si musical, qui a produit si grands artistes et créateurs de musique, soit arrivé à ceux qui sont arrivés à l'époque de Hitler. Comment c'est possible ça? Et comment c'est possible que cet engouement pour la musique, je me souviens de cet moment historique à Munich, salle Hercules, concert de Walter Gieseking, en jouant la musique de plus belle de Schumann, de Beethoven, public concentré, ébloui par cette beauté. Pendant tous les concerts, on entendait les cris et les plaintes d'une colonne interminable de gens qui allaient directement à Auschwitz. Personne n'a réagi. Donc la musique peut, si on n'a pas la sensibilité humaine et la spiritualité, la musique, la beauté, peut aussi nous rendre inhumains. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que la beauté, disait Dostoïevski, sauvera le monde, mais seulement si nous sommes capables de penser, c'est la pensée avec humanité et avec spiritualité.
Oui, et ça, on peut dire que c'est votre quête et votre recherche depuis toujours, que à la fois de trouver et de transmettre vos idées, votre humanisme en quelque sorte, à travers un travail sur la musique, alors qui n'est pas que purement technique, hein, c'est pas juste en faisant des concerts, mais aussi en allant vers les autres, en allant vers d'autres traditions musicales et en les faisant se rencontrer. Donc, parlez-nous un peu de votre découverte, en particulier de l'autre rive de la Méditerranée et de l'Orient, et de la manière dont ça vous a vous-même ouvert, ça a ouvert quelque chose en vous, peut-être vers l'autre, vers l'altérité, et puis ça a créé en vous un désir de faire de la musique précisément un instrument de paix et de fraternité entre les peuples, dans un contexte qui évidemment n'est pas toujours porteur. Jean Dissaval.
Bon, il faut dire que je suis né en Catalogne. Catalogne était jusqu'à 1200 entourée par le monde musulman. Catalogne était un des pays de l'Espagne à cette époque. Aussi, il y avait le plus de juifs. Donc, mes racines sont chrétiennes, juives et arabes. Et je ne saurais pas dire lequel pourcentage est plus dans mon génétique. Mais j'étais depuis toujours conscient quand même que ces racines étaient importantes culturellement et spirituellement. C'est pour cela que tout de suite, dans notre premier projet musical, nous avons fait un projet dans lequel il y avait des musiques chrétiennes de l'Espagne de roi catholique et des musiques juives d'avant l'expulsion des juifs. Et tout ça m'a amené simplement pour faire ces musiques juives. J'ai eu tout de suite contact avec des musiciens orientaux aussi. Donc peu à peu, ce contact avec ces musiciens orientaux m'ont appris quelque chose d'essentiel, c'est que dans les deux systèmes culturels que nous avons, musical en Europe et en Orient, nous avons suivi des chemins différents seulement à partir de 1300, 1400, mais jusqu'à 1300, nous avions un langage commun. Et c'est ça que j'ai voulu un peu utiliser comme élément de retrouvaille entre Orient et Occident. C'est comme ça que j'ai construit des projets comme Orient-Occident, Mare Nostrum, Jérusalem, en sachant que pendant tous ces anciens siècles, on pouvait dialoguer avec la même musique. Et la preuve que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à faire la musique des trovadours et la musique des cantigas, c'était les musiciens orientaux qui jouaient le mieux. Nous étions remplis d'informations qui n'étaient pas utiles pour cela. Harmonie, contrepoint, manque de spontanéité dans l'improvisation. On était complètement raide devant cela. Tandis que les musiciens orientaux venaient naturellement tout de suite, savaient comment improviser, comment orner, comment donner une phrasée à ces musiques. Donc c'est cela qui m'a mis dans une sorte de conviction que cette pont entre Orient et Occident était peut-être le plus important que nous avons. C'est un pont musical qui permet de contacter avec toutes ces cultures qu'aujourd'hui on a tant de problèmes, parce que c'est une façon de parler s'en sert. Je disais toujours, on ne peut pas mentir avec la musique. Et ça, c'est une des grandes forces de la musique. Même la personne la plus analphabète musicalement se rend compte quand un chanteur ne chante pas avec le cœur. Donc ça, c'est une qualité de la musique. Et une qualité pour dialoguer, c'est d'être sincère. Et c'est ça que, comme ça que j'ai commencé à faire ces projets où le premier Orient-Occident, c'était à l'époque de la guerre de l'Afghanistan. J'ai tout de suite invité des musiciens d'Afghanistan, des musiciens aussi américains, et on a fait ensemble un projet. Et c'était magnifique. Après, plus tard, j'ai aussi fait le projet Jérusalem, où j'ai invité des musiciens de Palestine, d'Israël. C'était dur parce qu'il y avait des musiciens de Palestine qui ne pouvaient pas jouer. Parce que s'ils jouaient avec des Israéliens, ils étaient bannis dans leur village. Mais j'ai trouvé des musiciens palestiniens qui habitaient en Israël et avec lesquels on a pu... Mais aussi, j'avais les musiciens turcs et les musiciens arméniens. Et à un moment donné, j'ai demandé à ces musiciens arméniens de jouer avec les Turcs, une marche turque. Ils m'ont dit, mais Jordi, tu es fou, tu connais notre histoire. J'ai dit, oui, mais là, nous sommes dans un autre contexte. Ces musiciens turcs ne sont pas vos ennemis. Ils savent qu'est-ce qui se passait et ils vous comprennent. Donc, et j'ai réussi, et maintenant, ce sont des amis extraordinaires, vous voyez. Je pense que c'est quand même aujourd'hui, j'ai fait la même chose avec les musiques de Balkans. Oui. Les premiers jours qu'on était là avec des Bosniaques, avec des Serbes, avec des Bulgares, avec des Tziganes, c'était comme une sorte de groupe de mafieux, chacun se regardait de loin comme ça. Je dis, mon Dieu, et on a commencé à faire de la musique. Et tout a changé. Tout de suite, j'ai vu les regards. Ah, les regards de voir comment un musicien respectait une autre parce qu'il jouait bien, parce qu'il faisait quelque chose de joli. Et ça, de voir tout de suite comment la musique, faire la musique, c'est un exercice de respect. Parce que quand vous faites la musique, vous devez nécessairement dialoguer avec l'autre, sinon on ne peut pas faire de la musique. Vous le respectez parce qu'il est là avec vous et vous devez réagir. Et ça, c'est une façon merveilleuse de mettre les gens ensemble.
France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar.
Oui, effectivement, vous avez parlé de ce très beau projet Jérusalem, la ville des deux paix, la paix céleste et la paix terrestre. C'était vraiment ça a donné lieu à un superbe livre-album qui retrace les 3200 ans d'histoire de la ville sainte, alors en musique, mais aussi il y a du texte. Mais le fait est que ça s'est paru en 2008. Alors c'est vrai que nous sommes convaincus de ce que vous dites, c'est-à-dire du fait que la paix terrestre devrait être le reflet de la paix céleste, le fait que la musique nous prouve, si besoin en était, que nous sommes faits pour vivre ensemble. Et pourtant, depuis 8 ans que ce projet a été terminé, la situation n'a fait que s'aggraver. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que l'art puisse vraiment changer les mœurs sur le long terme? Ou après tout ce que vous avez fait et ce qu'on voit aujourd'hui, vous pensez que ça restera juste un îlot pour quelques privilégiés, Jordi Savall?
Écoutez, d'abord, il faut déjà peut-être expliquer pourquoi il n'y a pas d'avancement dans les problèmes. Et quand il y a une blessure, quand il y a quelque chose qui s'est passé d'aussi tragique que s'est passé en Palestine, et Jérusalem, ou comme en Arménie, ou dans tellement d'autres endroits, il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas reconnaissance de ce qui a produit le mal. C'est pas possible. C'est-à-dire, la première chose qu'il faut accepter pour arriver à résoudre un problème, c'est reconnaître le problème. Tant que ça ne s'est pas reconnu, il n'y a pas de réconciliation possible. Donc voilà, les choses sont comme ça. Les êtres humains sont très durs à faire reconnaître leurs fautes. Mais je pense que la musique a toujours un grand pouvoir. Si on arrêterait les bombes et si on donnerait la possibilité que dans une vie digne, les enfants pourraient faire de la musique. Tous les enfants. Le monde serait très différent. Mais pour cela, il faut que les gens ont la possibilité d'avoir une vie digne. Si vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas faire une vie normale, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas avoir une possibilité de vous marier, de faire une... La musique va vous calmer, va vous apporter, mais ça ne va pas résoudre le problème. Je pense qu'il faut être conscient quand même qu'il y a des niveaux, des choses élémentaires pour la dignité de l'être humain qu'il faut résoudre avant. Il faut qu'on ait assez de manger, il faut qu'on ait des soins médicaux, il faut qu'on puisse avoir à l'école, il faut qu'on ait une maison. Il y a mille choses qui sont nécessaires, mais ça n'empêche pas que même si on aurait tout ça, il n'y a pas la musique, ce serait pas bien. Et je pense que la musique, même dans des circonstances, ça porte une grande force spirituelle. J'ai fait récemment un projet sur les musiques des esclaves. Et j'étais étonné de voir à quel point ces musiques sont des musiques d'une si forte énergie spirituelle, d'une si grande bonheur. Et j'ai su arriver à la conclusion que c'est justement parce que dans cette vie terriblement tragique qu'avait un esclave qui avait tout perdu, les êtres les plus chers, sa vie, tout, le seul espace de liberté qu'il gardait, c'était la musique. Et c'est grâce à cette musique qu'il arrivait à survivre. Donc la musique a servi au peuple arménien pour courir, guérir ses souffrances. La musique a servi au peuple séfarade pour reprendre une nouvelle vie dans des lieux éloignés de ses maisons. Grâce à leur chant, ils pouvaient continuer à avoir de l'espoir. Et c'est ça la grande force de la musique.
Et est-ce que c'est aussi dans cette optique que vous, finalement, que vous avez entrepris beaucoup de choses pour transmettre en fait cette musique, et en particulier pour le transmettre à ceux qui, peut-être autrement, ne pourraient pas y avoir accès? Alors je pense en particulier à un projet que vous avez autour de votre résidence, justement, à la Saline d'Arc-et-Senans, à la Saline Royale d'Arc-et-Senans. C'est un projet qui aura lieu du 30 septembre au 7 octobre, qui s'appelle Orpheus 21, musique pour la vie et la dignité. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit et en quoi, pour vous, c'est aussi presque votre responsabilité de musicien de faire un travail aussi de transmission et de reconnaissance des talents, en fait, même parmi des gens qui, effectivement, ont peut-être tout perdu. J'en dis ça mal.
Oui, c'est un projet qu'on va essayer de commencer, mais ça va durer beaucoup plus que ça. C'est un projet qui devra se produire pendant l'année. Je crois que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, en général, pour tous ces problèmes d'immigration, nous devons être conscients quand même que nous avons une responsabilité dans cette façon de gérer l'accueil de ces malheureux qui arrivent chez nous en fuyant de la guerre, de la misère, des situations qui eux-mêmes ne sont pas responsables. Et je pense que nous devions tous être concernés pour cela. Parce que j'étais à Calais il y a quelques semaines et j'ai entendu de ces gens, mais on espérait que l'Europe, c'était un lieu de civilisation. On espérait qu'on pourrait être accueilli avec humanité. J'étais frappé d'entendre ça. En lieu de cela, nous sommes ici traités presque comme des bêtes. N'est-ce pas ? Je pense que nous avons une responsabilité, surtout si nous pensons historiquement. Par exemple, aujourd'hui, on oublie que l'Europe a bâti sa richesse pendant le 18e, 19e siècle avec le travail de 30 millions d'esclaves que nous aurons esclavisés de l'Afrique au Nouveau Monde. Qui se souvient de ça aujourd'hui ? Personne. jamais été demandé pardon pour cela. Jamais il y a eu une moindre geste de réparation pour cela. Donc nous sommes, je pense, aujourd'hui dans une situation très grave dans laquelle 30 millions de déplacés qu'il y avait il y a 5 ans, aujourd'hui il y a plus de 100 millions. Aujourd'hui il y a des gens, des enfants qui meurent chaque jour de faim. Et on est là en train de regarder la télévision, de lire le journal, de dire « Ah, quel terrible, quelle disgrâce !» Et ça s'arrête à ça. Je pense que c'est un moment où il faut vraiment que tout le monde qui a un minimum de sens humanitaire soit conscient qu'il faut réagir. Tous les progrès que l'être humain a fait à travers de son histoire ont été possibles grâce à réagir. Si on n'aurait pas réagi avec des manifestations, avec des efforts, il n'y aurait pas de progrès. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut vraiment de nouveau être conscient que si on ne réagit pas pour résoudre ces problèmes, il n'y aurait pas de solution. Et on la preuve, c'est que la guerre qu'il y a en Syrie, ça continue, il y a chaque jour, vous savez, mais parce que personne dit « arrêtez ça ». Si tous les gens d'Europe qui sont contre cela se manifesteraient dans la rue et disaient « ça suffit », on ferait quelque chose et peut-être ça pourrait s'arrêter. Peut-être je suis un optimiste, mais je crois que nous sommes dans une situation où nous sommes tellement habitués avec la démocratie à que quelques minorités de personnes résolvent le problème pour nous-mêmes, que nous ne sommes plus en mesure de réagir vraiment. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel ces quelques personnes qui sont dans la dimension politique n'ont pas vraiment le pouvoir. Il y a un pouvoir supérieur économique mondial qui est beaucoup plus fort que ces ensembles de politiques qu'il y en a dans chaque pays. Et ça, c'est la réalité.
Enfin, ils n'ont peut-être pas le pouvoir, ils n'ont surtout peut-être pas la bonne volonté nécessaire. C'est-à-dire vraiment, il faudrait que ce que vous dites, c'est presque, il faudrait un appel à tous les hommes de bonne volonté. Hélas, les hommes de bonne volonté, on n'entend pas beaucoup leur voix.
Oui, mais quand la fabrication d'armes reste une des affaires générateur de richesse, comment vous pouvez qu'on obtienne la paix? Personne n'est intéressé qu'il y ait la paix dans le monde. On est en train de vendre et on n'a même pas obtenu que chaque État puisse dire combien d'armes ils ont vendues. Tellement la force de l'association de fabricants d'armes était tellement forte. Donc, c'est normal, il y aura toujours des guerres. Tant que fabriquer des armes soit le plus rentable, il y a toujours... Et ça, c'est la réalité. Donc, il faut, je pense, que l'humanité qui est capable de vivre dignement et qui a les ressources soit consciente que si on ne change pas les choses, la civilisation n'a pas beaucoup d'années à vivre.
Oui, et c'est vous qui le dites, vous qui avez d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est mis à l'école... l'histoire et la géographie, et on voit que ça continue, même à travers votre musique. Au fond, vous menez une réflexion sur l'histoire de l'humanité en prenant des tranches comme ça, en traversant avec des grands voyageurs comme Ibn Battuta ou Marco Polo, des grandes zones géographiques comme cela, que vous représentez sous forme musicale. Est-ce que vous diriez que, justement, c'est aussi votre contribution à la construction d'une éventuelle paix future que de nous parler d'histoire de manière aussi vivante à travers votre musique, Jordi Savall?
Ma contribution est très modeste dans le sens que je sais que ce que je fais, c'est très limité. Mais ce qui me fait agir, c'est la conviction qu'il faut que chacun de nous apporte quelques graines pour que les choses soient comprises. Parce que vraiment, l'ignorance, c'est la pire chose pour l'être humain. Si on avait un peu de souvenir des choses, par exemple, Erasme avait lutté toute sa vie pour le dialogue. Il disait déjà, la violence, la réponse violente à une violence engendre toujours la violence. Ça n'a pas de fin. Et on est aujourd'hui encore dans 5000 ans de culture de guerre qui n'a pas de fin. Et pour que cette clôture de guerre s'arrête, il faut reprendre la clôture de la paix. C'est les dialogues. Et c'est pas en réagissant violemment, comme on le fait toujours, quand il y a un attentat à Paris. On réagit violemment. C'est pas ça la solution. Il n'y aura pas moins d'attentats parce qu'on bombarde de plus. Il faut être conscient de ça. Mais surtout, je pense qu'il y a quand même... nous sommes dans une impasse parce que je crois que on n'a pas conscience que tout ce qui se passe en ces moments dépend de nous-mêmes. Je pense qu'il faut que les êtres humains en général réagissent. C'est qu'ils ont le privilège d'avoir la capacité de réagir parce qu'il y a beaucoup de monde. On est aujourd'hui dans une situation où même dans nos pays, il y a aussi de plus en plus de gens qui vivent comme dans un tiers-monde. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut que nous changeons dans notre vie. Et je crois que la musique, peut-être, je suis optimiste, mais si on aurait plus dans les écoles, on aurait plus de musique, mais de vraie musique, il y aurait une autre sensibilité. Je pense que l'évolution de l'enfant dans son premières années de sa vie, c'est très importante. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, alors justement, quel regard portez-vous sur la musique d'aujourd'hui? Alors, vous avez dit que vous aviez beaucoup aimé Elvis Presley, qui d'ailleurs lui-même avait des parents pentecôtistes, donc il avait été bercé par la musique d'église. Mais enfin, c'est vrai que parfois, nos enfants écoutent des choses dont on a l'impression que plutôt que de développer en eux le sens de la paix ou les émotions profondes et bienfaisantes, ont plutôt tendance à développer chez eux, et malheureusement ils aiment ça, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la violence, enfin vraiment quelque chose qui est très ténébreux, il me semble, dans certaines des musiques qu'ils écoutent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre cette tendance à aller toujours vers son penchant le plus ténébreux et le plus négatif, Jordi Savall? Est-ce que la musique peut jouer un rôle là-dedans, alors qu'on sait que la musique peut avoir l'effet inverse, justement? Il y a des musiques quand même très ténébreuses.
Écoutez, je pense que la musique, bon, vous dites ténébreuse, la musique n'est ni bonne ni mauvaise, c'est la manière qu'on l'utilise. Mais ce qui est sûr, c'est que si dans l'éducation, vous savez, tout ce qui est important se passe dans les 10 premières années de la vie. Et si un enfant aujourd'hui a besoin de cette musique violente, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il a besoin d'exprimer cette violence. Ça peut être une manque d'amour, ça peut être frustration, ça peut être mille choses. Je pense que si on a la chance d'avoir une enfance avec amour, avec en contact avec la beauté de la musique, avec la beauté de l'amitié, de choses, il n'y aurait pas besoin de cette violence. Mais malheureusement, on le voit toujours aujourd'hui, il y a de plus en plus les enfants vivent dans des conditions de violence, d'incompréhension, de manque d'amour, de manque d'harmonie. Et ça a des conséquences. Et il ne faut pas oublier que tout ce que nous sommes comme adultes se module dans les expériences que nous ferons entre les 10 premières années de notre vie. L'être humain n'est pas un être humain parce qu'il est né, un homme ou une femme. Il est humain parce tout ce qu'elle a reçu en contact avec ses parents et sa famille. Et voyez les enfants qui sont nés dans la forêt, au XIXe siècle, les enfants sauvages, qui ont été découverts avec 12, 13 ans. Ils étaient des êtres humains, théoriquement. Mais ils n'ont pas jamais pu être des vrais êtres humains. Ils parlaient le langage de l'animal. Ils étaient éduqués comme des animaux. Donc, tout ce que nous sommes comme êtres humains dépend de notre ambiance, de ce qu'on reçoit dans les premiers instants de notre vie jusqu'à qu'on ait 12, 10 ans. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est si important l'éducation. L'éducation, ça veut dire être en contact, être avec les choses qui peuvent nous aider à sortir tout ce qu'on a de bien.
Et vous en savez quelque chose, puisque vos propres enfants, je crois, ont suivi votre voie et que maintenant ils jouent avec vous-même, Jordi Savall, non? J'ai cru voir qu'ils étaient musiciens eux aussi.
Oui. Pas toujours, parce que je pense qu'il faut qu'ils fassent leur chemin. Mais ça, c'était tout à fait un hasard. On n'a jamais pensé faire que nos enfants soient musiciens. C'était un hasard, tout à fait, parce que c'est comme ça. Mais En même temps, on avait joué pendant quelques 2 ans ensemble. Et on a dû arrêter. Parce que faire des concerts ensemble, ça commençait à faire des problèmes de la famille. Vous savez, c'est, la musique peut être aussi source des discordes aussi. Ah, pourquoi tu as beaucoup de succès dans cette pièce et moi je n'ai pas de succès? Pourquoi je dois changer la première partie? Pourquoi tu dois changer la deuxième partie? Mais faire un concert, c'est aussi se mettre en compétition. Voir comment être valoré. Ça peut générer aussi des disputes, ça peut générer aussi des jalousies. C'est pas facile. Mais c'était une belle expérience et on l'a arrêté à temps.
Oui, en même temps, c'est vrai que si on faisait faire plus de musique aux enfants, on leur apprendrait aussi peut-être une meilleure façon de vivre ensemble, précisément d'apprendre à gérer ces conflits qui apparaissent, qui sont des conflits d'ego au fond. Et c'est naturel d'avoir un ego quand on commence, en tout cas.
Je pense que l'exercice de la musique, c'est un exercice essentiel déjà, mais on peut pas faire la musique si on a un peu de sympathie envers l'autre. On peut pas faire la musique si on n'est pas capable de dialoguer, si on n'est pas capable de se mettre d'accord, si on n'est pas capable d'écouter. Donc toutes sont des qualités essentielles pour être ensemble. Et en plus, la musique, c'est le meilleur aussi apprentissage de dialogue interculturel. Parce que quand on fait la musique ensemble, on dit « je suis plus important que toi ». Non, on est tous dans le même... Et c'est ça qui est, je pense, important. Très souvent, on parle de dire « ah, il faut être tolérant ». Et quand on dit « il faut être tolérant », ça veut dire qu'on se sent déjà dans une situation supérieure. Je tolère ça, ça me dérange, mais je le tolère. Hein? Le vrai dialogue interculturel, c'est celui dans lequel on se dit « ma culture a la même valeur que ta culture. Tu es une culture que je ne connais pas, plus petite, mais elle a la même valeur. » Et c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui développer. C'est ça que nous devons encore apprendre dans le monde occidental, apprendre à reconnaître les valeurs des cultures éloignées, des cultures qui nous semblent plus primitives, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils ont leurs valeurs. Et c'est ça qui serait leur grande force aussi, si les religions seraient capables d'accepter qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais qu'il y a beaucoup de manières de voir la vérité.
Et que de toute façon, que ce soit les voix spirituelles ou les voix musicales, elles sont toutes, au fond, là pour nous connecter à la fois à notre dimension invisible et au plus profond de notre humanité. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Jordi Savall, pour finir cet entretien ?
Absolument. Je pense que toutes ces forces de l'art, de la culture, sont essentielles, mais il faudrait qu'elles soient capables de générer en nous beaucoup plus de sentiments, de solidarité, beaucoup plus de générosité et beaucoup plus d'humanité.
Un très grand merci à vous, Jordi Savall, d'avoir été notre invité pour cette dernière émission des Racines du Ciel. Je rappelle que vous donnerez le 14 juillet, ici même à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, un concert intitulé « Venise millénaire ». C'est une création mondiale qui est le fruit de votre résidence dans ce lieu, avec votre formation « Le Concert des Nations ». Quel beau nom pour une formation! C'était donc la dernière émission des Racines du Ciel pour cette saison. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion d'émissions choisies parmi notre cycle des grands témoins. La semaine prochaine, ce sera un entretien avec Denise Desjardins, disparue en mars dernier, en forme d'hommage à cette grande dame de la spiritualité. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours sur notre site. Dans un instant, rue des Écoles par Louise Touret. Très bel été à tous.